RMC Intégral Tour.
Manon à Manon Royal entre Greipel et Degen Kolb, alors qu'Alexander Kristoff vient se mêler à la lutte. Victoire d'André Greipel, troisième succès pour le gorille de Rostov.
Martial Fernandez.
On ne va pas parler que du gorille dans quelques instants avec nous, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, juste pour moi, pour vous rappeler quelques instants la victoire historique de l'équipe de France de volley en finale de la Ligue mondiale. Et ça a été vite fait, bien fait, 3-7-0 contre la Serbie pour la première fois de son histoire. L'équipe de France de volley sur la première marche d'un podium d'une compétition internationale. Pour l'équipe de France de Coupe Davis, c'est terminé, battu en quart de finale 3-1 par la Grande-Bretagne, avec la victoire cet après-midi d'Andy Murray 3-7-1 face à Gilles Simon. Une médaille de bronze aujourd'hui au championnat du monde d'escrime, c'est pour l'équipe de France féminine de fleuret, mais le bilan est médiocre. Les Français repartent seulement avec 3 médailles au total, mais aucun titre. Thierry Bourguignon et Luc Leblanc sont là avec nous. Bonsoir, messieurs.
Salut, oui, salut.
Bonsoir, merci.
C'est pour Thierry, ça ?
Non, c'est pour André Greipel. Tu t'en doutes, Luc. André Greipel, vainqueur aujourd'hui de cette 15e étape au sprint à Valence. On va juste rappeler rapidement le détail de ce sprint. Greipel qui s'impose devant son compatriote John Degenkolb. Le troisième, c'est Alexander Kristoff. Peter Sagan, quatrième. Boisson Hagen, cinquième. Et puis, on a un Français de l'équipe Cofidis à la 7e place dans ce sprint. Christophe Laporte. Et puis, on le dit, mais on s'en doutait, il n'y a pas eu de changement au classement général aujourd'hui, avec toujours un podium Froome et Quintana Van Garderen. On a Pierre qui nous a appelé au 32-16. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir, Pierre.
Bonsoir,
voilà,
Pierre.
Voilà, bonsoir, messieurs. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que André Greipel est désormais le meilleur sprinter du monde, car vous oubliez l'absence cette année, malheureusement, de Marcel Kittel, qui a gagné, faut-il le rappeler, dans les deux derniers Tours de France, 8 étapes, et non des moindres, les deux prologues et les deux Champs-Élysées, et à chaque fois il a battu et Sagan et Cavendish et Greipel et Kristoff, voyez. Alors qu'en pensez-vous?
Oui, non, mais on parlait du moment, hein.
C'est, non, mais c'est le meilleur sprinter du monde,
et sur le plat. Sur le plat, c'est un grand sprinter. Après, c'est vrai que ben Kittel, l'absence de Kittel, c'est clair que ça a donné plus de chance aux autres, hein, parce que c'est...
Après... ça que je veux dire, oui, parce que bon, apparemment, et jusqu'à maintenant, il les a tous battus, hein.
Oui, mais ils se sont tous battus plus ou moins à un moment donné. Donc dire que je sais pas, il y a quand même cinq sprinteurs qui vont bien. Bon, moi je dirais que mince, je trouve plus mon
Cavendish.
Cavendish est sur un peu sur le déclin. Sagan est moins fort que ce qu'il l'a été. Bon, c'est vrai qu'il a non, il n'a pas d'équipe pour l'emmener non plus. Et puis après, il y a les gros sprinteurs qui sont Degenkolb, Kittel. Et puis,
D'ailleurs, si Kittel, Degenkolb a remplacé Kittel comme leader de son équipe, et il n'est pas du tout à la hauteur de Kittel, hein, quand même.
Il
pas le même registre normalement.
Tu
parlais de Cavendish qui était sur le déclin là maintenant. Je suis pas d'accord avec toi, Thierry, parce que tu regardes Greipel.
Il a perdu de sa splendeur.
Ouais, non, mais tu regardes Greipel. Il était à un moment donné, tout le monde disait, ouais, mais là il est sur le déclin. Ah ben là, je suis désolé, cette année il revient au plus haut niveau. Donc il faut pas parler de Cavendish comme quoi. Ben voilà, il passe au travers. Il a quand même gagné une étape. Je pense pas qu'il soit sur le déclin encore, Cavendish.
D'accord, mais enfin, en tout cas, moi, à mon avis, pour l'immédiat, ça peut changer, l'histoire change, évidemment, pour l'immédiat, jusqu'à preuve du contraire, c'est Kittel qui reste quand même, à mon avis, le meilleur sprinter du monde, car il les a tous battus, aussi bien Greipel que les autres, l'année dernière et il y a 2 ans.
Je pense que Greipel l'a battu aussi, une fois.
Oui. Greipel, il l'avait battu.
Mais il a 8 étapes sur deux Tours de France à son actif, quand même.
Oui. Juste pour rebondir sur ce que dit Pierre, Lucio, Bourgui, là on parle de Greipel, Degenkolb et Kittel qui n'est pas là. C'est 3 Allemands. Est-ce qu'il y a une école de sprint en Allemagne, ou c'est un peu la conjoncture qui fait que l'Allemagne sort 3 très grands sprinteurs en même temps? Le hasard.
Il y a une école en Allemagne, il y a une école en Belgique, il y a quand même.
Les Allemands, ils ont toujours eu des très bons sprinteurs quand même.
Mais il y a eu Zabel dans le temps.
Star aussi.
Ouais, il y avait Zabel, tout ça, oui. Il y a toujours une culture du sprint en Allemagne que l'on n'a peut-être pas forcément en France.
Qu'on n'a pas du tout en France, Lucho, parce que. Ouais. Tu vois bien, ouais, hein, même ouais, si on ouais. arrive à avoir des sprinteurs, il faut qu'ils aillent ailleurs pour essayer d'avoir l'équipe autour d'eux.
Oui,
c'est vrai.
Merci Pierre de nous avoir appelé au 32-16.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu.
Au revoir Pierre. À bientôt
Pierre.
Au revoir.
On a une question sur l'hashtag RMC Live de Mathias. Comment peut-on expliquer les bides de Degenkolb et de Christophe sur ce Tour de France ? Qui ont fait quand même deuxième et troisième, mais ils n'ont pas encore gagné. Hein.
Je sais pas, mais c'est surtout Christophe qui, moi, je le voyais même pouvoir contester le maillot vert. Donc là, franchement, il est un peu à fond. C'est clair. Il a fait un super début de saison.
C'est un homme du printemps.
Ben oui, un homme de classique, attention, parce que là, le Tour de France, c'est aussi l'enchaînement de 21 classiques. Donc, il y a des gens qui passent mal. Hein.
Jean-Claude est au 32-16. Bonsoir, Jean-Claude.
Bonsoir, les amis. Bonsoir à tous.
Bonsoir, Jean-Claude.
Bonsoir. Oui, j'ai regardé l'étape aujourd'hui. J'ai vu Coquart, là, le pauvre. Mais bon, Coquart, ce qui lui manque, c'est les locomotives, des machines, parce que c'est pas possible.
15e du sprint aujourd'hui, Brian.
Oui, bien d'accord, mais il lui manque la locomotive devant quand même. Il leur manque de coureurs là qui servent de locomotive quand même. Parce que là, je ne le vois pas. Ou alors, moi, qui change d'équipe. Parce que là je ne le vois pas faire autre chose.
Oui, d'accord, mais Sagan, il n'avait pas plus de monde autour de lui.
Hein,
Sagan n'avait pas plus de monde avec lui.
Non, d'accord, mais bon.
Le truc, tactiquement, je pense que l'équipe Europcar a peut-être joué, elle a mal le joué, hein, Thierry, parce que bon, ils ont quand même mené de très loin, là,
oui,
à 15 bandes de l'arrivée, 20 bandes de l'arrivée, ils étaient en tête du peloton, pourquoi faire ?
Oui, bon, c'est vrai qu'il est
génial. Ça sert à rien de rouler à 60 à l'heure, à 15 bandes de l'arrivée, pour amener Coquart au sprint.
Il valait mieux
laisser travailler les autres équipes et puis emmener Coquart parce qu'ils ont emmené à la limite les Greipel, Sagan et compagnie.
Oui,
donc,
une locomotive, je crois que ça lui servirait bien quand même. Hein.
Il n'en avait pas une l'année dernière avec Kevin Reza, qui a quitté l'équipe Europcar, qui l'emmenait sur les sprints du Tour.
Souvent,
hein.
Oui.
Ils l'ont laissé partir. Hein.
Eh ben oui, ouais. c'est ce qu'on disait. Il faut construire quelque chose autour de son sprinter, et ça, on n'arrive pas trop à le faire en France. Il y a que Cofidis qui l'a construit autour de son sprinter, Boigny. Mais après, il faut garder son sprinter et puis garder tous ses éléments. Mais c'est vrai que c'est pas dans la culture française, ça.
Mais pourquoi moi je le vois dans une équipe comme AG2R, il serait pas mal.
Bah, l'équipe AG2R n'est pas construite pour les sprints.
Ils ont personne pour amener les sprints. Hein,
ils ont plutôt deux grimpeurs, voire trois grimpeurs. Donc ils vont pas s'embêter avec un sprinter. Et puis il faut embaucher un train avec. Donc c'est franchement compliqué. Et c'est pour ça aussi que Cyril disait qu'en France on a les courses amateurs étaient plutôt des courses avec des bosses et un peu plus dures que en Belgique ou en Hollande, en Allemagne. Donc on privilégiait plutôt les grimpeurs et le sprinter se débrouillait tout seul.
Merci Jean-Claude.
Merci Jean-Claude.
Une dernière. Demain je vois des surprises au classement. Qu'en pensez-vous?
Au classement général?
Oui, au classement général.
Non, je pense pas.
Non.
C'est
non.
Pas assez, c'est non. À moins d'un gros problème d'un leader, mais il y a la dernière bosse va étirer le truc, mais il y a que dans la descente, par le passé, elle nous a tellement fait.
Il y a toujours eu des surprises. Là.
Oui. Mais bon, ouais, mais ces surprises-là, on aimerait ne pas les voir.
On se rappelle de la chute de Bellocchi, notamment. Merci beaucoup, Jean-Claude.
Messieurs, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
À bientôt, Jean-Claude. Le 32-16, si vous avez des questions comme Jean-Claude sur cette 16e étape de demain, hein, Bourg-de-Péage-Gap et ce col de Mans, n'hésitez pas. Le 32-16, le hashtag RMCIAG, ou alors pour revenir sur l'étape du jour et la victoire au sprint de l'Allemand André Greipel.
RMC, Intégral Tour.
Est-ce que tu vois l'Arc de Triomphe?
Alors
Martial Fernandez.
Eh bien, tu t'arrêteras quand tu le verras.
Ils s'arrêteront dans une semaine sur les Champs-Élysées, mais il y a encore une belle semaine qui nous attend avec les Alpes au programme. Vos questions pour Thierry Bourguignon et Luc Leblanc, le 32-16 ou le hashtag RMC Live. Et Tony est au 32-16. Bonsoir Tony.
Bonsoir
Tony.
Bonsoir.
On m'entend là?
On t'entend, oui, on vous entend très bien. Allez-y Tony.
Oui, oui.
Mettez la plaque.
Lucho, tu m'entends?
Oui, je t'entends parfaitement Tony. Bien. Tu peux y aller, tu peux mettre le grand braquet.
Ok. Vas-y. Lucho, je voulais te dire que bon, j'ai toujours été fan de toi à l'époque quand tu courais avec Thierry Claverola, tout ça. Je me rappelle de ces bonnes
années. Mais là, tu l'es plus aujourd'hui.
Oui, ces bonnes années. En plus, c'était à l'époque que Robert Chapat te commentait. C'était super bien.
Ouais.
Donc ça, c'est des beaux souvenirs. Par contre, ma question, elle va être directe, Lucho. Moi, je sincèrement, crains le pire. Sincèrement, je suis fan de Quintana. Je suis un fan. Je suis originaire des Antilles, donc de la Guadeloupe.
Ouais. Tu parles de la Guadeloupe là.
Oui.
J'y vais là au mois d'août. Je vais commenter pour Radio Caraïbes International le Tour de Guadeloupe comme tous les ans.
Trop fort.
Tu y seras peut-être.
Bon, laisse parler. laisse poser les questions.
Que nous, le Tour de la Guadeloupe, c'est vraiment quelque chose de grandiose.
Ah ouais. C'est clair. Alors vas-y, ta question sur Quintana.
Et on a pas mal de Colombiens qui y viennent. Donc, ma question, comme je le disais, je suis très fan de Quintana et je suis sûr, persuadé que Quintana, il va mener la vie dure à Froome dans les Alpes. Ça, c'est sûr et certain. Sûr et certain. Et vous aurez de grandes surprises.
Ah, ben, moi, on y compte bien. De toute façon, moi, j'ai toujours gardé Quintana vainqueur du Tour. Donc, je suppose que dans les Alpes, il va y avoir la guerre entre lui et puis Froome. Je l'espère, je l'espère volontiers d'ailleurs. Je vais y arriver. Excusez-moi, j'ai petit plateau là. Je suis en train de m'embrouiller.
Attention, ça s'en va devant, hein, Lucho.
Là, je suis en train de prendre 20 mètres là. Ouais, alors, je disais, oui, quand tu regardes l'étape d'hier, là, arrivé à Mende, par exemple, là, Froome, il s'est retrouvé tout seul. Il avait plus ses deux coéquipiers à côté de lui. Bon, sur une montée de trois bornes, Quintana n'a pas pu faire la différence. De toute façon, Froome n'a pas paniqué derrière puisque, si tu veux, il est revenu tranquillement au rythme. Il a un matelas de 3 minutes et tout ça. Mais admettons qu'il se passe la même chose dans les Alpes avec des cols de 10-15 bornes. Peut-être que la musique sera différente. À savoir que s'il a plus Richie Porte, s'il a plus ses deux coéquipiers avec lui, Froome, il peut éventuellement être peut-être dans le dur à un moment donné sur Quintana. Donc, il y a de l'espoir pour Quintana.
Ah oui, mais
je
garde tout mon espoir. J'ai confiance que l'équipe Movistar, ils vont parce que là jusqu'à maintenant ils ont joué un peu mal leur stratégie. Je suis confiant que dans les Alpes, ce sera une autre musique et là vraiment on va comprendre vraiment qui est Quintana vraiment. Et j'en reste persuadé.
3-10 entre Quintana et Froome, pour être exact. 3-10 au classement général. Merci beaucoup, Tony.
Je te remercie beaucoup et je fais aussi un grand bisou à Thierry Bourguignon que j'ai beaucoup aimé aussi et que j'aime beaucoup aussi.
Ok, merci.
C'est gentil, c'est gentil à toi et puis vive la Guadeloupe, hein, moi j'y vais.
Merci
alors,
beaucoup, et puis bonne interview là-bas et super bien, beau commentaire là-bas.
Merci, c'est gentil.
À bientôt,
merci,
Tony.
Merci.
Au revoir. Tiens, puisqu'on parle de Quintana, on a Soto Minguez sur le hashtag RMC Live qui nous demande pourquoi le petit frère Quintana n'est pas présent sur ce tour. C'est vrai que c'est un espoir aussi, hein, le petit frère Quintana.
Oui. Mais paraît-il qu'il serait peut-être aussi bon, voire meilleur que son frère.
À chaque fois, on sort ça.
Oui, mais oui, il paraît.
Mais faut lui laisser le temps d'arriver.
Oui, il est encore jeune. Son grand frère est déjà jeune puisqu'il est toujours pour le maillot blanc. Donc, évidemment, il a encore un peu plus de temps. Christophe est au 32-16. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Bonsoir, Christophe.
Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Vous vouliez nous parler de Chris Froome.
Oui. En fait, j'étais au volant de ma voiture tout à l'heure et j'ai entendu quelqu'un qui dit Chris Froome s'est légèrement agressé, de la légère agression de Chris Froome. Et là, je trouve que c'est hyper violent de l'urine dans la gueule. C'est vraiment, je trouve, un acte très violent. Et je le dis d'autant plus sereinement que moi, Chris Froome, c'est pas... Voilà, j'ai les mêmes doutes que tout le monde. J'ai des doutes pour d'autres personnes aussi. Mais je veux dire, c'est pas... Je suis pas un fan de Chris Froome, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. C'est scandaleux, quoi. Et c'est très violent.
Oui, moi, mais on a toujours dénoncé, ça, c'est clair.
Ouais, ouais.
On n'a jamais dit que c'était innocent. Une agression pareille, ça ne doit pas se passer, quelle que soit l'agression. Bon, après, l'agression verbale, on n'y peut rien. C'est ça touche le sentimental, mais c'est tout. Jeter quelque chose sur un coureur, essayer de faire tomber un coureur, c'est inadmissible. Inadmissible. Comme disait Monsieur Prudhomme, le patron du Tour, si on n'aime pas le Tour, eh ben on ne vient pas.
Moi j'étais à Mende, là, je reviens en plus de chaque année avec des potes, notre délire c'est d'aller camper en bord de Tour et de le voir passer, et puis voilà, c'est ça le Tour, fraternel, tout ça. Ça va, les mecs, en plus, ils parlent de dopage, les mecs ils sont tous à 5 grammes.
Oui.
Je veux dire, c'est quand même incroyable, quoi, d'être aussi violent avec quelqu'un.
Le problème, c'est qu'ils y sont de bonne heure, voire la veille, et puis ils font la teuf toute la nuit, et puis ils arrivent. Quand les coureurs passent, ils contrôlent plus certains spectateurs. C'est ça le problème.
Ah mais moi, c'est clair. Moi, je me dis chaque année, mais comment il n'y a pas plus de trucs incroyables, parce qu'on voit des gens, ils sont mais dans un état pas possible, quoi. C'est très violent, quoi. Et je trouve que c'est parce que Chris Froome, il domine, mais il mérite autant de respect que le dernier du peloton, et voilà, quoi. Après, alors j'imagine que le présentateur qui a dit une légère agression, il savait que ça allait déclencher une réaction.
Vous avez entendu ça à la radio?
Sur RMC, c'est pour ça que j'ai appelé. Il y a une demi-heure.
Ça doit être une façon de parler. Oui, voilà.
C'est mal exprimé parce qu'on a.
Voilà,
on a tous.
Mais c'est bien, ça fait.
On a tous dénoncé l'agression. Non, on disait simplement que Chris Froome était moins virulent en disant que aujourd'hui il se sentait pas agressé comme son équipe veut bien le dire. Il a eu hier. Le jet d'urine par la figure, c'est inadmissible, des choses comme ça, quel que soit. On dénonce quel que soit le coureur, et puis de toute façon, Chris Froome, il a le maillot jaune, il est plus fort que tout le monde, et voilà, qu'on ait des doutes, c'est une chose, mais jusqu'à preuve du contraire, les doutes n'ont jamais condamné personne.
Et Lucio, on est en train de démonter derrière toi parce qu'il y a beaucoup de bruit, on enlève les grilles ou quoi?
Ils ont coupé le sifflet en plus.
Oui, oui.
Non, Lucho, c'est bon. Il y a beaucoup de bruit derrière toi, Lucho.
Il y a un petit peu de bruit, oui.
Ça démonte. Tu vas être le dernier sur la ligne.
Merci. Je suis le dernier.
Merci Christophe de nous avoir appelé au 32-16 pour poser toutes vos questions à Thierry Bourguignon ou Luc Leblanc. Parler de violence avec Chris Froome, le geste aussi de Sean Yates, Lucio Bourgui, le directeur sportif de l'équipe Saxo Bank, qui a lancé un bidon sur la caméra qui suivait Peter Sagan quand il était en train de changer de vélo. Qu'en pensez?
C'est nul, c'est franchement nul. D'ailleurs, il est hors course pour demain, mais à la rigueur, il faudrait l'exclure même jusqu'au Tour, parce que ça lui serve de leçon. Et il n'y a pas de raison à jeter un bidon comme ça sur les caméramans, parce que en plus le caméraman, s'est arrêté au départ tout proche de Sagan. Et on a vu Sagan lui dire quelque chose, ils sont allés un peu plus loin, et la voiture est arrivée. Pourquoi jeter un bidon? On peut s'expliquer gentiment, et sinon on a les armes à feu, et puis on se tire dessus aussi. Non, mais il y a une tension très très forte sur ce Tour, j'ai l'impression.
Non, mais par rapport à ce que j'ai entendu dire, alors il faut avoir des précisions, et puis il faut avoir une confirmation. La moto aurait failli peut-être renverser Sagan, et c'est ce qui a provoqué un petit peu la colère de Sean Yates.
J'ai vu s'arrêter, oui, c'est vrai.
On peut s'expliquer d'une façon différente.
Peut expliquer peut-être le fait que Sean ait envoyé le bidon à la caméra.
Ça peut l'expliquer, mais bon, il y avait d'autres façons de faire passer le message.
Oui, mais tu sais, sur la colère, comme ça, quand t'es sur le vif et tout en course, que t'as la pression et tout pour peut-être gagner l'étape,
Lucho, faut savoir se maîtriser. Savoir se maîtriser. C'est là qu'il y a le professionnalisme. Et on peut pas admettre ça. Voilà, c'est tout.
Non, mais je suis d'accord, Thierry. Il faut savoir se maîtriser. Mais tu te mets à la place de Sean Yes dans la voiture. Bon, après, moi, je sais pas. Je veux rien dire sur le motard et tout ça. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, moi, je peux pas incendier Sean Yes et le motard.
Voilà.
Donc, si tu veux, quand tu es dans la course, quand tu es directeur sportif et que tu vois ton coureur qui peut-être prêt à se faire renverser par une moto, tu sors, t'es à peut-être je sais pas combien de kilomètres, t'es pas loin de l'arrivée, sur le vif c'est difficile, hein, tu sais, tu des fois tu contrôles pas non plus dans l'action.
Non, je pardonne pas. Bon. On doit te mettre de son
oui de non ses mais actes, de ses hein. actes je suis
alors,
d'accord
à ce
mais bon,
tu pardonnes aussi aux gars qui balancent n'importe quoi sur la figure des coureurs
mais parce non.
que ben oui mais c'est la même chose l'autre il est énervé tu sais il a bu un canon ben ouais il y a toujours des raisons à péter les plombs mais
mais là c'est pas du tout la même chose que le mec qui balance la piste c'est prémédité déjà je veux dire ça il savait qu'il allait le faire Chaniette savait pas 10 secondes avant qu'il allait faire ça donc voilà il faut pas non plus tout mélanger Thierry
en termes d'image en tout cas c'est pas forcément bien.
Oui, non, mais c'est clair aussi. En termes d'image, c'est pas bon non plus. On est d'accord.
Lucio Bourgui, on a Roger au 32-16. Bonsoir, Roger.
Salut, les Jones.
Salut. Salut, les Jones, alors. Hein
on va faire... où sont les Jones?
Ah, bah, ici. Ils sont une flopée.
On est jeunes encore.
Oui. Ah, sur le vélo. Sur le vélo. Ouais.
Bon, dis-toi, les Pyrénées étaient à peine franchies que déjà il régnait une étrange ambiance sur le Tour de France. On pensait que tout était joué, tout était terminé. Ben, il n'y avait plus qu'à remonter sur Paris et 48 heures après, à rouler sur les champs. C'était un petit peu ça que les gens croyaient, la plupart des gens croyaient. Et alors qu'on est encore très loin des Alpes, ben non, faut qu'on se réveille. Les Alpes, elles n'ont pas vraiment commencé. Donc, c'est à partir de maintenant que tout va se jouer. Et puis, 3 minutes, c'est pas insurmontable. Il suffit que le petit Colombien nous fasse une Charlie Gaulle. Les 3 minutes, c'est plus rien. Donc, le Tour de France n'est pas terminé. Et il faut bien que les gens se disent ça.
Ouais. Mmh. Oui, non, mais le Tour, on n'a jamais dit que le Tour était terminé aujourd'hui. Hein.
Non, mais 3 minutes,
c'est beaucoup, mais c'est pas insurmontable non plus. Tu sais, quand t'as une défaillance dans une étape de montagne, tu peux perdre beaucoup plus que 3 minutes. Hein.
Bien sûr.
Donc voilà. Alors, est-ce que Froome va la voir défaillance. La défaillance bah, ça serait bien pour le Tour, ça serait bien pour tout le monde. Au
non,
moins,
sans parler de défaillance.
Voilà.
Il peut avoir un petit coup de moins bien, du moins pas pouvoir répondre à toutes les attaques des adversaires, c'est tout. Sans la vraie défaillance, parce que tu sais très bien, Lucho, quand tu prends un coup de buis, un coup de fringale ou un truc comme ça, t'as plus de jambes, mais c'est pas 3 minutes là. Oui, c'est clair, ça peut être catastrophique.
Ouais, mais bon, non, mais c'est sûr.
C'est vrai que ça risque d'être dur quand même, 3 minutes, avec la suprématie que la Sky a montré jusqu'à présent. On espère toujours, mais voilà, il faudrait que nos artistes, les 3 pseudo-fantastiques, nous montrent autre chose que ce qu'ils nous ont montré jusqu'à présent.
Enfin, les quatre. Il n'en reste plus qu'un rescapé sur les quatre. Enfin, un, deux. Enfin, tu veux dire, par rapport à Froome, il n'en reste plus qu'un rescapé. C'est Quintana. Ne compte pas sur ton favori Contador.
Non, mais je fais pas du pro Contador, mais Contador n'est pas
non,
bon
mais
non plus.
Compris,
il est à une minute
non.
derrière, c'est tout.
Il est à 83 de Froome, exactement.
Et voilà. Donc, tu sais...
D'ailleurs, les écarts sont très très faibles derrière.
Ça risque d'être très dur quand même, parce que derrière, si tu enlèves Froome, les autres se tiennent dans la minute.
Mmh.
Donc, ça peut être une belle bataille. Déjà, ce sera une belle bataille pour le podium.
Ouais. Quintana, Vanguard, Rennes, Valverde, Contador.
Oui.
Voilà, ils sont en une 13.
Vanguard, Rennes, moi, je pense qu'il va avoir un coup de moins bien, parce que c'est pas le pur grimpeur comme tous les autres.
Puis il commence à reculer un peu, hein.
Ouais, sur une arrivée raide comme hier, oui, c'est clair qu'il aime
c'est
pas
vrai.
Ça. Il aime pas
c'est
ça,
vrai.
Mais il sait bien, il a bien maîtrisé la chose, hein, quand même. Il a pas pris la minute, hein, non plus.
C'est vrai.
Merci Roger de nous avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
À
et
bientôt.
J'espère que
à
Charlie bientôt. Gaulle.
Bonne soirée. Hein.
Charlie Gaulle, c'est soit 58 victoire du Tour. Hein, Charlie Gaulle, le Luxembourgeois.
Celui-là, je l'ai pas vu.
demain, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. 16e étape, Bourg de Péage Gap, 201 km, Col de Mans, avec le Col de Mans qui est situé à peu près une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et une descente, Bourgui, pour toi, c'est la descente qui peut faire des petits écarts, mais pas la montée.
Oui, mais je pense que bon, par le passé, arrivé à Gap, il y a eu souvent une échappée qui partait de loin. Et puis, pas tout le monde arrivait peut-être au bout, mais il y avait quelques coureurs qui pouvaient se détacher dans ce dernier col. Et puis, un bon descendeur, c'est sûr qu'il a la course gagnée. Hein. Si tu prends un peu de risque dans cette descente qui inspire pas confiance, parce que par le passé, elle a montré de belles gamelles, le gars qui descend bien, il a gagné, parce que tu y as vite à Gap après. Hein.
Oui, de toute façon, à mon avis, très honnêtement, il va y avoir une échappée qui va partir de oui. loin, bien sûr, et qui risque d'arriver au bout. Je vois mal comment même les équipes de leaders, elles n'ont pas envie de se mettre à la planche pour revenir au pied de la dernière ascension avant de rebasculer sur Gap. C'est tactiquement, ça serait mal géré de la part des Sky, voilà. Et je pense qu'ils ont besoin de garder leur force pour les étapes alpestres.
Ça, c'est à partir de mercredi.
Il faut, voilà. faut rappeler qu'aujourd'hui, les deux premières heures à 47 km/h de moyenne. Ouais. Donc ça laisse des traces. Hein. Quoi qu'il arrive, le peloton est très fatigué. On l'a vu tout de suite. Hein. Il y a des les blessés, les fatigués, tout de suite se sont fait lâcher par le peloton. Et ça va être de pire en pire. Hein. C'est clair.
Merci Lucio, merci Bourgui.
Allez,
merci à demain.
À demain.
Salut à tous.
Nous on part à Rio, nous dans quelques instants pour l'exploit du jour et même un exploit pour le volley français historique puisque les Français viennent de remporter la Ligue mondiale cet après-midi en battant la Serbie 3-7-0 et on sera dans quelques instants avec Erwin Engapet, l'attaquant de cette équipe de France, élu meilleur joueur de la compétition.
À demain, Monsieur Leblanc.
RMC Intégral Tour. Martial Fernandez.
20h30 sur RMC, l'after ce soir, ça débute à 21h avec un thème en particulier, les joueurs sud-américains sont-ils sous-cotés en France? Le hashtag RMC Live ou le 3216 pour poser vos questions. Avant d'ouvrir la page football, on va partir à Rio.
RMC France Olympique.
Et plus précisément à l'aéroport de Rio où on retrouve Erwin Engapet. Bonsoir Erwin.
Bonsoir.
Erwin Engapet avec un grand sourire parce que l'équipe de France de volley vient de remporter la Ligue mondiale et il n'y a pas eu photo en finale. Vite fait, bien fait. 3-7-0 face à la Serbie. C'est une première historique pour les Bleus. Première médaille d'or dans une grande compétition internationale. Erwin, tout le monde a le sourire et la finale s'est déroulée sur un scénario parfait.
Ouais, ben c'est clair. Déjà, tout le monde est super heureux, tout le monde est super content. Ça fait la finale s'est super bien passée. On s'est fait vachement peur en demi-finale. On gagnait 2-0, on s'est rattrapé à deux têtes partout. On a gagné au tie-break 3-2 et là, la finale, on est vraiment rentré avec les crocs sur le terrain et on a gagné 3-0. On les a dominés tout le match. On a fait la finale parfaite.
Vous avez conscience que là, vous êtes la meilleure équipe de l'année au monde, hein, Erwin. C'est incroyable.
Ouais, ben on continue notre chemin, on continue notre progression. Je pense que ouais, ça fait 3 ans qu'on bosse, ça fait 2-3 ans qu'au niveau des compétitions, on échoue au pied des podiums, on perd contre les équipes qui gagnent à la fin. Donc on savait qu'on avait l'équipe pour gagner un titre. On est content qu'on ait réussi à le faire maintenant.
Alors là, vous êtes sur une incroyable série, 17 matchs gagnés sur 18. Sur ce Final Six à la Ligue mondiale, vous battez les champions du monde, les vice-champions du monde. Vous avez conscience du niveau de l'équipe?
Ben on en a eu conscience. Je pense que c'est au championnat du monde où on a vu qu'on a battu pratiquement
quatrième au championnat du monde, hein, pour l'équipe de France.
C'était quatrième. On a battu des équipes qui étaient devant nous, pratiquement toutes les équipes qui étaient devant nous au ranking mondial, au classement mondial. Donc on a pris conscience qu'on avait le potentiel pour arriver à ce niveau-là. Ça fait 2 mois et demi à peu près là qu'on est en tournée pour la Ligue mondiale et on avait vraiment à cœur de prendre notre revanche par rapport au championnat du monde parce qu'on a échoué au pied du podium et là on voulait vraiment ramener une médaille et on en ramène la plus belle donc on est super heureux.
Ouais, dans un an à Rio, l'objectif c'est d'y revenir aussi, Erwin Engapet évidemment parce que l'équipe de France elle gagne la Ligue mondiale mais le volley est fait de telle manière que vous n'êtes pas encore qualifié pour les Jeux. Il y a un tournoi de qualification qui se déroulera en janvier, ça va être aussi le gros objectif dans les mois qui viennent. Il y a aussi les championnats d'Europe avant d'ailleurs.
Ça s'enchaîne. Il y a
des Europe avant et après, ouais, c'est clair que l'objectif principal, ça va être en janvier le tour de qualif pour Rio, le tournoi européen, parce que nous, pour les équipes européennes au volley, c'est très difficile de se qualifier parce que toutes les meilleures équipes sont européennes et il n'y a pas beaucoup de place, donc ça va être très difficile, mais on a l'équipe pour le faire. On est conscient qu'on peut le faire, on va continuer à travailler. Et voilà, on aura un tournoi en janvier. Et si on finit dans les trois, si on finit premier qualifié d'entrée, et si on finit deuxième ou troisième, un autre tournoi avec les Asiatiques.
Erwin, vous n'allez pas féliciter celui qui a organisé le voyage, parce que là, vous n'avez pas le temps de fêter ça à Rio, hein, dans l'avion ce soir.
Ouais, c'est clair, ben, on l'a su dès qu'on est arrivé. Hein, on avait le départ le jour de la finale à 19h.
Mais heureusement que ça ne s'est pas joué en 5-7, vous auriez raté l'avion.
Ouais. Mais bon, on est aussi contents. Ça fait longtemps qu'on est parti, qu'on n'a pas vu les proches, qu'on n'a pas vu la famille. Donc on est contents aussi de rentrer assez rapidement en France.
Et vous avez eu le titre de meilleur joueur de la compétition en plus. C'est toujours ça de prix. Hein.
La cerise sur le gâteau.
Merci beaucoup, Erwin Engapet. Félicitations et bon vol.
Merci
alors,
à vous,
à tous vos
Merci
copains.
À, vous.
À bientôt.
Merci.
Et on aura des copains à vous d'ailleurs demain soir aussi, évidemment, dans l'intégral tour quand tout le monde aura atterri à Paris. Merci beaucoup, Erwin Engapet, 20h35 dans l'intégral tour. C'est l'heure de parler football.
RMC, le Mercato Show.
Bonsoir Benjamin Glaise.
Bonsoir Martial, bonsoir à tous.
Le marché des transferts avec du nouveau dans le dossier en fait Di Maria.
Alors on le sait Martial, le joueur de Manchester United veut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le feuilleton dure depuis des semaines. Pourquoi ? Eh bien comme RMC vous le révélait, à Paris, Paris propose 10 millions d'euros sur 4 ans à l'international argentin, alors que Jorge Mendes, son agent, demande 12,5 millions nets annuels. Mais selon une source proche du joueur, l'accord entre Paris et Di Maria devrait être trouvé. En définitive, ce qui bloque encore le transfert, c'est l'attitude de Manchester United. Les Mancuniens avaient acheté le joueur au Real Madrid 75 millions d'euros l'été dernier et veulent le revendre au même prix. Et c'est là que ça coince, puisque le PSG propose 60 millions d'euros et ne serait pas prêt à monter jusqu'à 75 millions d'euros.
À Lyon, des précisions sur l'avenir d'Alexandre Lacazette.
Mais le meilleur réalisateur de la dernière saison de Ligue 1 a été très clair hier à l'issue du match amical contre le Milan AC. Il avait déjà d'ailleurs marqué le but de la victoire. J'ai envie de continuer avec Lyon et je suis pleinement impliqué dans le projet de cette saison, a indiqué Alexandre Lacazette. L'attaquant international est toujours en négociation avec le club pour prolonger son contrat qui court jusqu'en 2018. Et puis toujours en France, Nolan Roux à Saint-Etienne, c'est bientôt fait. L'attaquant qui évolue à Lille devrait passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Verts demain. Il pourrait même jouer avec ses nouvelles couleurs dès mercredi prochain contre l'Ajax d'Amsterdam.
Un ancien joueur de l'équipe de France qui va tenter de rebondir au Portugal.
Il s'agit de Michael Siani. Il s'est engagé hier soir pour 3 saisons avec le Sporting Portugal, défenseur central de la Lazio-Drôme depuis 2012, le champion de France avec Bordeaux, passé par Auxerre, Sedan, Lorient. Elle n'avait joué que 12 matchs de Serie A la saison dernière. Objectif donc retrouver plus de temps de jeu. Le Sporting Portugal qui a enregistré une autre recrue la nuit dernière, le bouillant attaquant colombien Teofilo Gutiérrez, en fin de contrat avec River Plate. Il a signé pour 3 saisons avec le club portugais.
L'Angleterre est la première ligue qui continue d'affoler le mercato estival.
Et ça continue avec tout d'abord un accord entre Aston Villa et Liverpool au sujet de Benteke. L'attaquant devrait bel et bien rejoindre les Reds. Le transfert s'élèverait à 46,8 millions d'euros pour Liverpool, qui avait déjà enregistré la vente à 69 millions d'euros de Sterling à City, on s'en souvient. Selon Sky Sports, l'international belge devrait passer sa visite médicale dans les prochaines 48 heures. Pour pallier ce départ, Aston Villa s'intéresserait à Adebayor, l'ancien joueur de Monaco qui évolue actuellement à Tottenham. De son côté, Manchester City parie sur l'avenir. Les Citizens ont officialisé aujourd'hui l'arrivée de Patrick Roberts en provenance de Fulham. L'attaquant de 18 ans, surnommé autrement, le Messi anglais, rien que ça, a été recruté pour 16 millions d'euros. Un montant énorme pour ce joueur qui n'a disputé que 18 matchs de deuxième division anglaise l'an passé, mais qui était aussi déjà dans le viseur du PSG.
Merci beaucoup Benjamin Glaise et toutes ces infos, transferts, mercato, elles sont à retrouver sur le site rmcsport.fr si elles vous font réagir, le 3216 ou le hashtag RMC Live. On en parle aussi dans l'after avec un thème en particulier ce soir. Les joueurs sud-américains sont-ils sous-cotés en France? C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup qui vont peut-être plus dans les pays comme le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. Appelez-nous 3216 ou le hashtag RMC Live. On va partir du côté de Troyes et on est avec Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de cette équipe troyenne, équipe promue cette saison grâce à sa première place en Ligue 2. Bonsoir Jean-Marc Furlan.
Bonsoir, Martial.
Alors, à 3, maintenant on y voit un peu plus clair, Jean-Marc. Maintenant que la DNCG a confirmé la présence du club en Ligue 1, est-ce que vous, l'entraîneur, ça vous libère un peu en cette période de mercato pour savoir où vous allez?
Oui, l'entraîneur est, effectivement, il est libéré, mais il n'y a pas que l'entraîneur. On a bien vu tous les témoignages sur les réseaux sociaux de notre club où les supporters et le public est, qui sont attachés à ce que les stacks soient en Ligue 1 étaient aussi très libérés. Mais nous, effectivement, pour le travail, c'est, on attendait cette décision avec impatience. On avait une grande confiance en notre président et aux dirigeants. Mais je peux vous dire que, voilà, le matin de la décision, les joueurs me demandaient dans le vestiaire, me disaient à quelle heure c'est qu'on aura la décision. Mmh. Voilà. Maintenant, ça nous permet effectivement de passer Ligue 1 et de travailler pour recruter pour l'avenir.
Alors, penser Ligue 1, Jean-Marc Furlan, après deux saisons en Ligue 2, c'est toujours des pensées plus agréables, de toute façon.
Non, mais c'est déjà très agréable d'être entraîneur de football. C'est un métier passion, c'est un métier obsessionnel qui absorbe notre vie. C'est déjà très, très agréable d'entraîner et d'avoir un boulot. Maintenant, être en Ligue 2, c'est être à la lumière. Parfois, on a l'habitude de dire que c'est entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est l'ombre et la lumière. Et c'est exactement ça. On est aussitôt mis en lumière. Et pour une petite ville comme nous, c'est très intéressant. C'est un défi très important. C'est un défi passionnant et qu'on veut aborder un peu différemment qu'il y a deux ans. Deux ans, on était monté, mais on était heureux d'être là sans rendre compte. On s'en est rendu compte au bout de 6 mois qu'on était en Ligue 1. On s'est mis vraiment à jouer au bout de 6 mois. Donc, on espère. On travaille pour ça depuis 6 mois, donc on est prêt, beaucoup plus prêt qu'il y a 3 ans.
Alors c'est quoi justement les écueils à éviter, vous qui avez connu cette redescente, j'allais dire en 2013, vous avez une recette, le jeu, toujours le jeu?
Non, mais j'ai connu aussi en 2004-2005 l'accession, un maintien une année et puis après une descente. De toute façon, c'est très compliqué pour les clubs à petit budget, à la fois ou de se maintenir durablement. Et on se rend compte, et là je rentre dans une question qui n'est pas forcément des questions que vous posez d'actualité, mais on se rend compte des clubs qui sont là, des petites villes, petit budget, 5-6 ans, il y en a qui ont disparu déjà du football professionnel, parce que le budget est très important et on se retrouve quand même dans l'impasse. Et aussi c'est important de se maintenir pour pouvoir pérenniser le club. Alors tout ça est un peu compliqué, je l'ai déjà connu. Mais si je compare à l'été 2012... Nous sommes, j'allais dire, en avance parce que on est en avance tout en ayant eu ce problème de NTG, mais on est en avance parce que surtout depuis le mois de décembre dernier, on a désiré cette Ligue 1. Les joueurs, ce groupe-là, a voulu aller se frotter aux équipes de Ligue 1. Et de ce point de vue-là, l'écueil que je veux éviter, c'est que, qu'en été 2012, j'avais été assez pessimiste à les joueurs. J'avais été très alarmant. Je leur ai dit, faut s'accrocher, faut faire attention, c'est notre statut. Et puis on pourra difficilement, j'espère, faire plus mal, puisque on en plaisante souvent dans le vestiaire. Le premier match qu'on avait gagné, je leur ai dit, c'est pas vrai. Je leur ai dit, c'est en décembre qu'on a commencé à gagner notre premier match, 6 mois après. C'est pas vrai, mais on avait gagné notre premier match au bout de 10 ou 12 journées, je pense, depuis contre l'OM. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une marge pour faire mieux quand même.
On a une belle marge. Jean-Marc Furlan, d'ailleurs, votre calendrier, c'est toujours important, les premiers matchs aussi, surtout quand on arrive de Ligue 2, mois d'août. Ajaccio, d'abord, déplacement en Corse, ensuite vous recevez Nice, puis vous allez à Marseille, et puis vous recevez Montpellier. Ce sont des matchs aussi qui vont permettre de se lancer, de donner le tempo.
Ben, je crois que, sincèrement, tout est compliqué. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que vous me rappelez, le calendrier, Martial, mais vous me le rappelez, mais en fait, je ne m'étais pas du tout préoccupé parce que notre préoccupation. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est tellement, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de tel. D'abord, l'été.
Ce sera dur de toute façon.
Oui, voilà, ce sera compliqué. Puis la période estivale est une période très, très préoccupante pour l'entraîneur et très accaparante. Parfois, on se languit que le championnat reprenne parce que c'est un rythme qui est régulier. Tandis qu'en pleine, s'occuper d'un effectif de 30 joueurs plus une vingtaine d'entraîneurs adjoints et d'encadrants, l'été, c'est très, très lourd. En plus du recrutement, c'est très lourd pour l'entraîneur, c'est très épuisant. Donc, on se concentre surtout comment manager et faire avancer ce groupe de 50 personnes. Alors, du coup, et surtout comment arriver à être à peu près en bonne disposition le 8 août. Alors vous me rappelez le calendrier, mais quoi qu'il arrive, ça sera tous les matchs sont compliqués. Il y a parfois d'ailleurs ce qui se passe aussi en Ligue 2, mais encore particulier en Ligue 1, c'est que parfois on croit que ça va être très difficile. Et puis c'est là qu'on prend des points, et parfois on croit que ça va être plus facile et on n'en prend pas.
Période compliquée pour un entraîneur, Jean-Marc. Est-ce que le mercato aussi du côté de Troyes est encore d'actualité? Est-ce que vous souhaitez encore modifier un petit peu l'effectif?
La période, c'est une période surtout très accaparante, et puis donc, compliqué, c'est toujours compliqué pour un coach. Mais là, ici, c'est très accaparant et très. Et le fait du mercato, oui, on a discuté avec le président, on a rediscuté demain matin, et on va pouvoir effectivement essayer de recruter plusieurs joueurs pour étayer, étoffer l'effectif et le consolider. Voilà, et déjà retrouver notre niveau qui était le nôtre il y a deux mois, qui était un très bon niveau. Et puis ensuite, au fil des semaines et au fil des mois, ce qui est capital, c'est au fil des mois de la saison de progresser. Parce que comme disait Ferguson, les matchs, ça compte beaucoup les matchs quand on arrive à mars, avril, mai, quoi. Là, ça compte le double des points. Donc, il faut en plus progresser dans la saison, ce qui est capital.
Bon, déjà, il y a eu des arrivées officielles, hein, Bekamenga, Karaboué, notamment, du côté de Troyes. Donc, vous êtes déjà un petit peu étoffé.
Il y a Jessipi qui revient de Monaco.
Ouais.
Parce qu'il était resté, en vacances, dans la principauté, le Bourg.
Un peu trop longtemps, d'après vous, c'est ça?
À mon goût, il a pris trop de temps auprès de sa fille. J'espère qu'il va revenir. Il est déjà troyen aujourd'hui. Il sera là demain, après-midi.
Bon. Très bien. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Furlan.
Merci beaucoup. Merci à vous.
L'after, c'est dans un quart d'heure maintenant avec Guillaume Laniel, Chérif Guémour et Jonathan Massia, avec un thème plus particulièrement à l'honneur ce soir. Les joueurs sud-américains sont-ils sous-cotés en France? Si vous avez des exemples particuliers, le 32-16 ou le hashtag RMC Live pour poser vos questions. Dans quelques instants, on sera avec l'entraîneur de Reims, Olivier Guégan. Juste pour moi, le temps de vous rappeler quand même les principales informations sportives de la journée, avec une première historique. On vient d'en parler avec Erwin Engapet. L'équipe de France de volley remporte la Ligue mondiale pour la première fois de son histoire, en battant en finale la Serbie 3-7-0. L'équipe de France de Coupe Davis, elle, s'arrête en quart de finale, battue par la Grande-Bretagne 3-1. Andy Murray aujourd'hui a dominé Gilles Simon 3-7-1. Et puis une médaille de bronze pour l'équipe de France d'escrime au fleuret féminin aujourd'hui. Mais le bilan est mitigé, seulement 3 médailles et aucun titre pour cette équipe de France des championnats du monde à Moscou. Dans un instant, avec nous, Olivier Guégan, l'entraîneur du club de Reims.
RMC Intégral Tour, Martial Fernandez.
20h47 sur RMC, comme promis, on part du côté de Reims. Le club de Reims, 15e de la dernière saison en Ligue 1, et on est avec l'entraîneur rémois Olivier Guégan. Bonsoir Olivier.
Bonsoir à vous.
Alors Olivier, période forcément particulière pour un entraîneur, entre les matchs amicaux, l'avant-saison, le mercato qui est encore en cours pour l'instant du côté de Reims. On peut parler d'effectifs très stables. C'était une volonté de votre part de garder les mêmes joueurs?
Oui, écoutez, on avait un projet de club où c'était de conserver nos meilleurs joueurs, notamment nos joueurs en fin de contrat, et c'est chose faite, notamment avec Fofana et Antoine Deveau. Donc ça, c'était une volonté forte de ma part de les garder dans l'effectif. Et puis après, la deuxième étape, c'était de travailler sur des profils très précis pour renforcer ce collectif. On a fait une partie du chemin, mais on n'a pas tout fini. Donc on sait que le marché français est compliqué à l'heure actuelle. On est toujours en négociation avec certains, donc faut être patient.
Le chemin à faire dont vous parliez, Olivier Guégan, c'était un attaquant, ça s'est fait, on va dire, avec Bulot. Puis il y avait aussi un arrière latéral et un milieu défensif. C'est encore ça les deux petits chantiers pour vous?
Non, voilà, c'est les trois profils qui étaient ciblés. C'était un joueur offensif de couloir, notamment à gaucher, ce qui a été fait avec Frédéric Bulot. Et après, on avait aussi un autre profil qui était un latéral droit, et on l'a fait avec le petit Traoré de Lyon. Et il y a le chantier qui était un peu plus ambitieux. C'était un milieu de terrain défensif. Et là, on est toujours dans l'action. On travaille, on peaufine un peu les pistes et on avance sur des dossiers. Donc, il faut être patient parce que le marché français est, comme je me répète, mais le marché français est fermé. Donc, il faut être patient et malin.
Alors Olivier Guégan, à saison particulière pour vous parce que vous êtes arrivé il y a quelques mois seulement à Reims en tant qu'entraîneur principal. Là vous avez tout le monde sur la main et c'est la première fois en tant qu'entraîneur principal que vous démarrez une saison. Du coup vous l'abordez comment à titre personnel ?
Écoutez, très sereinement. Moi je suis dans la continuité un peu de ce que j'ai fait sur la fin d'année. C'est vrai que l'année dernière c'était une année un peu dans l'urgence où il fallait parer au plus pressé, où on était en crise de résultats, donc il fallait aller à l'essentiel. Et puis cette année, c'est vrai que j'ai la possibilité de construire mon groupe, de travailler, de faire une préparation complète avec un effectif que j'ai choisi, le renforcer aussi avec les postes que j'ai ciblés. Donc c'est très intéressant. Et puis et le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai un groupe que je connais très très bien. Je suis dans un club que je connais aussi très très bien. Donc c'est un gain de temps. C'est un gain de temps, mais c'est pas gage de réussite parce qu'il va falloir du travail et puis il va falloir bien sûr de la qualité, bien sûr de l'abnégation, de l'exigence. Mais je suis ambitieux, donc. On va mettre des actes en fonction de ça, mais je suis plutôt confiant.
Alors l'ambition à Reims, juste rappeler les trois derniers classements, c'était 14e dans l'ordre, 11e et puis 15e cette saison qui vient de s'achever. Ça va être quoi pour vous ? Quelle place vous êtes fixé ?
Non, mais c'est compliqué de fixer des objectifs tant que le championnat n'est pas commencé. Bien sûr que le maintien est capital pour continuer de faire grandir l'institution. Maintenant la priorité des priorités, ça sera de gagner ce premier match et de faire une très bonne entame de championnat, parce que c'est gage aussi de certaines choses dans cette poule aller. Après
c'est important le mois d'août, Olivier Guégan, c'est important. Oui. J'ai juste rappelé le calendrier en Ligue 1. Ouais. Donc vous allez à Bordeaux pour la première journée, après vous recevez l'Olympique de Marseille. Ensuite, c'est déplacement à Nantes, puis la réception de Lorient, d'ailleurs contre qui vous avez joué hier soir en match amical avec un 0-0. Ces quatre matchs peuvent déterminer une bonne partie de la saison ou pas ?
Le départ, bien sûr, qu'il est important pour toutes les équipes. Maintenant, il est pas capital, mais c'est vrai que de faire un bon départ, ça conditionne une saison. Après, on joue Bordeaux qui est qualifié pour l'Europa League, donc ça va être une équipe qui va être de suite en action et de suite très très dynamique. Après, on va jouer Marseille peut-être avec un temps de retard dans la préparation parce que leur effectif sera pas au complet, mais il y aura beaucoup beaucoup de talent, donc ils peuvent combler les différences. Et puis après, on va dire que notre championnat va commencer avec Nantes et Lorient, donc voilà, le championnat est ce qu'il est. Nous on se prépare pour être prêt à la première échéance, et moi je sais que j'ai un groupe de qualité, je sais que j'ai des bons joueurs. Donc on va tout faire pour être prêt d'entrer. Et puis après, pour parler d'objectifs, pour revenir à votre question, l'objectif dans un premier temps est de gagner des matchs, et puis au fur et à mesure que la saison va avancer, on pourra fixer des objectifs plus précis. Mais pour l'instant c'est trop tôt pour dire on va jouer telle ou telle chose.
Olivier Guégan, vous êtes, j'allais dire, jeune dans la fonction d'entraîneur principal à ce niveau-là. Donc la méthode Guégan, on la connaît pas bien. Vous insistez souvent, vous, dans vos interviews, en disant « je serai impitoyable sur l'état d'esprit des joueurs ». C'est quelque chose que vous craignez, des joueurs, qui est comme ça des moments d'égarement ou des attitudes un petit peu particulières ?
Bah écoutez, moi ça fait 6 ans que je suis dans le métier d'entraîneur et après ma carrière de joueur, je sais que l'état d'esprit est garant de beaucoup beaucoup de choses.
la solidarité, l'envie de travailler ensemble, l'envie d'avancer ensemble, fédère certaines choses. Et après, quand on est en Ligue 1, on sait qu'on a des joueurs de talent. Donc si on arrive à créer quelque chose à ce niveau-là, derrière, leur talent va faire la différence et va rayonner sur le collectif. Donc bien sûr que moi, je serais intransigeant et est-ce que je leur ai dit impitoyable à ce niveau-là, parce que je sais que j'ai des bons mecs.
Et c'est un de vos critères aussi dans le recrutement, alors j'imagine.
Bien sûr, que les garçons qui vont nous rejoindre, bien sûr que ce sera des bons footballeurs, vont être très bons footballeurs, mais j'ai envie de créer du lien et de créer de l'humain. Je veux dire, j'ai envie que ça vive bien ensemble et c'est vrai qu'on est dans des métiers où il y a de la concurrence, mais il faut avoir envie aussi de s'aimer. Et ça, c'est pour moi, c'est capital. Donc, ça fait pas tout, mais déjà, si on a ça, on va arriver à combler beaucoup de défaillances. Et après, comme je l'aurais dit, leur talent fera la différence. Faire la différence au niveau du collectif.
Bon, bah en tout cas, vous êtes plutôt satisfait pour l'instant, vu que vous avez gardé les mêmes, hein, j'imagine.
Ouais.
Merci beaucoup, Olivier Guégan.
Pas de souci.
À bientôt.
À vous. Bonne soirée. Au revoir.
Au revoir, Olivier. Tiens, j'ai trois petits résultats de matchs amicaux sur des clubs de Ligue 1. Saint-Étienne qui a fait match nul avec les Allemands de Mayence, un but partout. Angers qui a battu Niort 3-2. Et puis Nantes qui a perdu contre Genk, un but à zéro. La première défaite des Nantais depuis les débuts de ces matchs de préparation. 20h56. Guillaume Laniel est là. Rebonsoir, Guillaume.
Rebonsoir, Martial. Rebonsoir à tous.
L'heure de l'after. Maintenant.
Exactement, et tu parlais de matchs amicaux, il y a eu des matchs amicaux également pour le Paris Saint-Germain et Marseille hier, hein, avec deux victoires d'ailleurs, hein, parisienne et marseillaise. On en reparlera dans l'after entre 21h et 23h. On parlera du LOS qui sort d'une saison compliquée, un dossier sur le marché sud-américain, sans oublier le foot fiction, les infos du jour et le quiz en toute fin d'émission. On attend tous vos messages, le hashtag RMC Live et sur le 3216. À tout de suite pour l'after qui vous accompagne ce soir entre 21h et 23h.